Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode un petit peu spécial. Je vous l'avais déjà évoqué. On va se retrouver pour un épisode où on va parler d'une thématique, d'un objet bien précis. Et cette thématique, c'est la vision de l'arme nucléaire dans le cinéma après la crise des missiles de Cuba en 62. C'est par hasard si je fait sur un truc aussi spécifique, c'est que c'est mon sujet de grand oral. Donc ce podcast est déjà un premier entraînement, même si je vais devoir beaucoup supprimer parce qu'un grand oral c'est 5 minutes et que ce podcast va être très long. Mais voilà, donc globalement, à l'origine j'étais parti sur quelle est la vision. Et en fait, je m'en suis rendu compte que c'était plus intéressant de dire comment les sociétés occidentales dénoncent et montrent la peur autour de la menace nucléaire. Parce que c'est les trois films que j'ai sélectionnés dont on va parler, c'est ce qu'ils font. Voilà, essentiellement. Donc on va parler de deux films sortis en 1964 et un film sorti en 1965. Voilà, je pense que on va pouvoir y aller. Et tout de suite, on va parler du premier film avec Docteur Folamour de Stanley Kubrick.
Attack, Russia. Oh. Ten females to each male.
Alors, Docteur Folamour, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un film de Stanley Kubrick qui est sorti en 1964. On reparlera de cette date quand on parlera du prochain film parce qu'elle est très importante. Et en fait, il raconte l'histoire d'un général de l'armée américaine qui est convaincu que l'URSS va empoisonner l'eau des États-Unis et qui décide tranquillement de lancer une attaque nucléaire, voilà, sur l'URSS. Et donc, réunion de crise dans la salle des opérations avec le président américain pour empêcher tout simplement le massacre et un holocauste nucléaire. Alors, c'est un film qui est considéré comme culte, je pense que c'est adéquat de le dire, voilà. De toute façon, beaucoup de films de Kubrick sont considérés comme cultes, et Docteur Folamour fait pas exception. Il a la particularité d'être un film de guerre sans l'être, en fait. D'être un film de guerre qui montre pas d'image de guerre, d'être un film de guerre qui passe aussi beaucoup dans la parole, d'être un film de guerre qui passe par le cynisme et qui passe par la comédie, et ça, c'est sa grande force. Je vous avoue que les deux autres films, ils sont pas très jojo à regarder, ça vous met pas forcément dans un bon mood, je préfère prévenir, alors que le Kubrick, on se tape énormément de barres, enfin, sincèrement, il y a des moments très très drôles, mais on va y venir. Alors, la première chose qui est intéressante, c'est qu'il y a donc Peter Sellers, l'acteur principal, qui joue trois rôles, voilà. Qui joue en général le président et Docteur Folamour, donc qui est un ancien nazi qui a été recruté. Ça, c'est évidemment une des critiques qu'a glissé Kubrick. Il y a beaucoup de nazis, en raison de leurs compétences techniques, qui ont été recrutés et protégés par les Américains, parce qu'il y avait l'optique de la guerre froide et qui se disaient, mais franchement, avec ce qu'ils savent faire, ce serait un peu con qu'ils aillent aux mains des Russes, on va les prendre nous, et ils vont mettre leurs innovations à notre service. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il y a eu Werner von Braun. L'inventeur du missile V2 qui a été ouais, je sais même pas si on peut dire capturé, mais bref, qui a été pris par les États-Unis et qui en gros, c'est un peu grâce à lui si il y a eu la conquête spatiale, quoi. Il était là dès le début de la NASA. C'est grâce à sa technologie, à la technologie de son missile qu'on a pu faire les fusées. Enfin voilà, c'est ce genre de nazi qui arriver à persister après la guerre pour leurs compétences. Et bien sûr, c'est une première critique qui est placée par Kubrick, parce que évidemment que ce film a des ambitions critiques, évidemment que on est globalement sur de la satire, évidemment que voilà, Kubrick veut en mettre plein la gueule aux technocrates, veut en mettre plein la gueule au gouvernement, veut en mettre plein la gueule aussi à ceux qui pensent que oh putain, mais quand même, une bombe nucléaire dans la gueule de l'URSS et c'est fini. Voilà. Il en met plein la gueule à tous ces gens-là. Et il y a des trucs qui m'ont intrigué. Il y a un petit carton, je sais plus si c'est au début ou à la fin du film, mais en gros qui dit ne vous inquiétez pas, les événements dépeints dans ce film sont une fiction. Ça ne pourrait pas arriver, en fait. Voilà. Dans la vraie vie, le système est plus complexe que ça. Et on en reparlera avec le prochain film, mais le réalisateur de l'autre film a mis quelque chose de semblable dans son générique, et il a dit qu'en fait on l'avait obligé à le mettre pour sortir le film simplement, alors que du côté de chez Kubrick en fait on a eu bon après le film de Kubrick, là je fais dans l'ordre chronologique de la sortie, le film de Kubrick est sorti avant, mais apparemment ça a engendré des changements politiques pour que la situation qui est décrite dans le film ne puisse pas arriver. Alors en quelques mois, est-ce que les changements politiques ont été tellement efficaces que ça justifiait l'obligation de mettre un carton sous peine que le film ne sorte jamais? Je ne sais pas, je ne pense pas, ça m'étonnerait vraiment. Est-ce que le fait que le film ait entraîné des changements politiques soit un peu vrai, mais que ce soit quand même une news un peu exagérée, ça m'étonnerait pas non plus. Bon, sur la réalisation, on va pas avoir du Kubrick, c'est pas du Shining, c'est pas du 2001, c'est pas tout symétrique, carré, froid et tout, etc. C'est pas du tout le même style de réalisation, parce qu'il n'y a pas la même intention derrière. Dans un Shining, il faut que tout soit symétrique, froid, pour bien représenter la folie qui se réside dans cet hôtel. Là, c'est pas du tout le but. Là, c'est faut que ça fasse preuve d'un cynisme, faut que ce soit drôle, faut que ça arrive à faire rire. Donc forcément, si on commence à faire une mise en scène froide, ça va pas du tout aller. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Mais après, Kubrick, voilà, c'est aussi un mec qui vient de la photo, il sait comment faire une image, il sait comment cadrer. Forcément, c'est bien réalisé, forcément. Mais moi, je vais m'attarder plutôt sur les scènes. En fait, je trouve qu'il y a un culot dans le cynisme, dans le comique, qui a tapé le culot des deux autres films dont on va parler après, en termes d'événements. Parce que, spoiler en soi, oui et non. Mais bref, dans tous les films dont je vais parler, la bombe nucléaire explose. C'est pas présenté de la même manière, mais dans tous les films dont je vais parler, elle explose. Et voilà, moi je trouve qu'il y a dans le côté comique, il y a un culot, il y a une scène où le général qui a envoyé la bombe essaye de se défendre lui-même contre l'armée qui vient essayer de le déloger, l'armée américaine, hein, pas du tout soviétique, mais enfin, il y a des gags absolument hilarants. Je pense à ce rôle de composition quand même, qui est le rôle de Dr. Follamour tout simplement, mais c'est du génie en fait. Peter Sellers, ce qu'il arrive à faire, c'est du génie. Premier degré. Vraiment. Je trouve ça absolument, absolument taré en fait. Il y a cette scène, je vais vous mettre l'extrait montage, je suis obligé. Mais où, bref, d'un coup, il est dans un fauteuil roulant et il a des espèces de spasmes où il retient son bras gauche, je crois, je sais plus, bref. Il retient son bras avec son autre bras pour éviter de faire des saluts nazis. En fait, il a des spasmes où il veut H24 faire des saluts nazis. Et il y a un moment où il arrive à se lever de son fauteuil roulant et il fait au président « Mein Führer, I can walk !» Et j'ai mais explosé de rire à ce moment-là. Et en plus, ce qui est absolument fou, c'est que Peter Sellers, en plus de jouer trois rôles, il a improvisé énormément de ses lignes. Et ça, c'est on reconnaît le propre d'un grand acteur comme ça. Et franchement, mais c'est pépite, c'est juste, c'est incroyable. Mais des performances comme ça, on en demande plus, on en veut plus. Autre petite anecdote sur le film, il faut savoir que le film aura dû finir en bataille de tarte à la crème dans la salle des opérations. Mais que Kubrick s'est dit, bon, on va se calmer quand même, hein, parce que, voilà, on va pas déconner, on se calme. Non, ça aurait pas forcément fait respectueux de montrer ça, en fait. Enfin, voilà, de montrer une bataille de tarte à la crème dans la salle des opérations, ça aurait pas fait... Je veux bien, enfin même Kubrick, je pense qu'il s'est dit ça, que ce soit une comédie, que ce soit machin, que ce soit censé être cynique et tout, mais il y a quand même des limites, voilà. Il s'agit quand même de, bah, déjà d'essayer d'échapper à la censure, parce qu'on est quand même en pleine guerre froide, donc la censure est possible, et quand même de mentionner un certain respect au gouvernement de son pays, quoi. Je pense que, dans tous les cas, voilà. Après, il y a quand même des espèces de confrontations qui sont montrées comme puériles, entre les diplomates soviétiques qui viennent dans la salle des opérations américaines, Bah, il y a d'ailleurs. Non, je ne vais pas spoiler, mais bref. Il y a ce truc de. Le général nationaliste qui fait. Non, mais comment. Pourquoi vous les amenez dans la salle des opérations? Ils vont faire ça! Et en fait, il se passe exactement ce qu'il a prévu. Et c'est assez drôle. Enfin, voilà. Et du coup, ça donne une espèce de bagarre assez puérile qui est très très drôle. Mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que ce qui est important. Et donc, on va y venir sur comment Kubrick dénonce l'arme nucléaire. Il y a forcément un cynisme, une satire qui sont assez importants, qui essayent déjà de dédramatiser la chose. Pour moi, l'humour, ça permet de dédramatiser la chose, ce qui n'est pas le cas dans les autres films, qui fait qu'on arrive à... Parce qu'on a forcément, si c'est un truc qui ne dédramatise pas, on va forcément avoir la peur en regardant, parce que c'est vrai que c'est des films qui ont des réalités qui sont assez terrifiantes, voilà. Enfin, moi, j'ai regardé les deux autres films, je me suis couché, j'étais vraiment pas bien, surtout dans le contexte qu'on a avec la guerre en Ukraine. Donc, c'est vrai que le fait de justement décomplexer un peu ça, le dédramatiser, ça peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique pour le spectateur, que bénéfique pour Kubrick, parce qu'il arrive à mieux faire passer son propos, et on arrive à avoir cette espèce de décalage. Avec le film, malgré le fait que ce soit quand même des événements un peu traumatisants, on arrive à avoir ce décalage qui fait que, bon bah ok, ça va, on peut en rire, on peut réfléchir dessus, c'est acceptable. Et puis bien évidemment, il y a cette intention de grossir les traits, de partir dans le grotesque, d'en faire des caisses, mais des caisses assumées, des caisses qui arrivent à faire rire quand même. Voilà, je vous ai cité quelques petits trucs absurdes qui se passent dans le film. Absurde en termes, enfin voilà, qui serait pas forcément réaliste, qui n'arrivera pas dans une vraie salle des opérations, qui n'arrivera pas, enfin dans ce contexte-là, mais enfin ça reste quand même. En fait, il arrive à faire ce truc qui pourrait être totalement ridicule, mais qui dans son ridicule arrive à être sérieux et à marcher. Et je trouve ça super fort. Et pour moi, l'aspect comique, il permet de toucher un plus grand public. Voilà, il permet de toucher un plus grand public tout en traduisant une peur. Et d'ailleurs, le titre du film complet, c'est Docteur Follamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'inquiéter de la bombe et à l'apprécier. Un truc comme ça. J'ai dit de la bombe, c'est de la bombe, ça ne veut rien dire sinon. Bref. Et je pense que ça résume bien en fait l'intention qu'a voulu faire aussi Kubrick. C'est-à-dire quand même dénoncer une certaine peur. Mais en fait, ce qui est dénoncé. Contrairement aux autres films, ce qui est dénoncé chez Kubrick, c'est pas la peur de l'arme nucléaire en elle-même, c'est la peur que les gens qui soient là-haut, c'est même pas une peur en fait, c'est ce qu'il montre, le fait que les gens qui soient là-haut ne soient pas aptes à diriger une telle crise en fait, et c'est ce qu'il essaie de faire ressortir avec tout le cynisme qu'il peut y avoir dans ce film. C'est voilà, c'est pas en fait c'est pas tellement une dénonciation de la menace, enfin de l'arme nucléaire en tant que telle. C'est une dénonciation de ceux qui pourraient l'utiliser et ceux qui devraient gérer une crise si jamais il venait y en avoir une, quoi. Mais donc, comme il est parti dans cette catégorie humour sans forcément se prendre au sérieux ou quoi, il peut absolument tout se permettre. Et c'est pour ça que c'est magistral. Et on a quand même un plan à la fin où il y a quand même une bombe nucléaire qui est lâchée et un mec qui est accroché à cette bombe. Enfin, voilà, c'est... Il y a des trucs où il peut vraiment tout se permettre, comme ce personnage mais d'ancien nazi, mais qui à notre époque aurait sûrement fait parler, mais qui est du génie, mais c'est un rôle de composition, mais c'est un des meilleurs rôles de composition qu'on ait pu voir dans l'histoire du cinéma, je pense. Mais voilà, je trouve ça assez, assez fabuleux, Docteur Follamour. Après, est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour savoir que Kubrick fait du bon cinéma, même si on verra que c'était pas humainement quelqu'un de très coolos, on va le voir. Voilà, ça fait du bon cinéma, Docteur Flamour. Moi, je ne suis pas du tout sur le... c'est un classique, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout le terme classique, voilà. En revanche... Il est vrai que Docteur Flamand est considéré comme un classique et qu'il faut le voir. Mais il ne faut pas le voir parce que c'est un classique, il faut le voir parce que c'est un excellent film. Je vais, enfin voilà, je pourrais rentrer plus en détail dans le film, mais il y a tellement de trucs qui ont été faits sur Docteur Follamour que je préfère m'attarder sur les deux autres où je pense peu de monde, enfin moins de monde en tout cas, en parlait. Donc on va tout de suite passer au deuxième film qui est très 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 rapproché de Docteur Follamour, puisque déjà il est sorti en même année, 1964, et qui part un peu du même speed justement, on va en parler. On va parler de Point Limite de Ciné-Lumette. This is the president. I can no longer receive tactical alterations by voice. I know that, but you're telling me I've been specifically ordered not to do. Damn it, Grady, this is the president. There are 18,000. 19,000. Drop those bombs. Do you hear me? Is it really your wife? 20,000. The ramp is a failure. You're letting our other plane get through. Yes, Mr. President. Today we had a taste of the future. Do we learn from it or do we go on the way we have? Avant de parler de Point Limite en tant que tel, on va déjà parler de ce qui le relie au précédent film qui est Docteur Follamour. J'ai pas assez de faire des petites références, enfin des petits sous-entendus, voilà, quand j'ai parlé de Docteur Follamour. On va y aller maintenant, on va crever l'abcès tout de suite. C'est deux films qui sont sortis en 1964. Je parle de la date de sortie américaine. Docteur Follamour est sorti en janvier et Point Limite est sorti en octobre. Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu une affaire autour de ces deux films qui fait que Docteur Follamour est resté dans l'histoire et est le film culte qu'on connaît aujourd'hui, alors que Point Limite est un peu tombé dans l'anonymat et aujourd'hui plutôt un film oublié, qu'il faudrait réhabiliter d'ailleurs, on en parlera. Bref, tout commence pendant la production de Docteur Follamour quand Stanley Kubrick entend parler d'un petit film qui se prépare, voilà, réalisé par Sidney Lumet, qui, bizarrement, ressemble un peu à son film, mais sans la comédie. Et ça, Kubrick, ça lui plaît pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc Kubrick, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer Sidney Lumet en justice pour plagiat. Et Kubrick va remporter ce procès. Et donc Columbia, la société qui a produit et qui diffuse Docteur Follamour, va récupérer les droits de diffusion de Point Limite, et ils vont tout simplement torpiller la sortie du film. C'est-à-dire que ils vont faire sortir Docteur Follamour en premier, beaucoup plus ou moins avant, justement pour qu'il acquiert ce statut, etc. Et la sortie de Point Limite passe assez inaperçue, parce qu'on a eu Docteur Follamour quelques mois plus tôt. Voilà, donc je veux bien que Kubrick soit l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, il n'y a pas de souci. Hein. Mais d'après les visions qu'on fait de lui, ça n'avait pas l'air d'être quelqu'un de très sympa, sympa de ouf. Voilà. Bref, ça c'était la petite histoire judiciaire. Maintenant, effectivement, le pitch peut faire penser à Docteur Follamour. Après, les deux films sont adaptés d'un roman, donc bon, voilà, pas le même d'ailleurs. Mais passons, enfin, selon les informations que j'ai, selon ce que j'ai vu. Même si apparemment, la cause qui a été utilisée pour l'attaque en justice, c'est justement que, en gros, Lumet aurait utilisé le roman dont Kubrick avait les droits pour faire son film. Enfin, il aurait adapté le roman dont Kubrick avait les droits. Même si c'est pas ce que j'ai trouvé personnellement dans mes recherches. Voilà, le Docteur Follamour, il est inspiré d'un livre qui s'appelle 120 minutes pour sauver le monde, alors que Point Limite est inspiré d'un livre qui s'appelle Point Limite. Voilà, donc bref, je comprends pas, mais bon, c'était dans tous les cas, c'était un prétexte pour que son film marche et qu'il puisse torpiller la sortie du film de Lumet. C'est pas très sympa, je trouve. Voilà, de la part de Kubrick. Je trouve ça un peu petit, en fait. Enfin, sincèrement, surtout qu'en soi, les deux films se complètent bien, quoi. Donc, je sais pas si c'était vraiment utile. Voilà. Voilà, voilà. Les deux films se complètent bien parce que... en fait, c'est... Oui, donc... dans le postulat, c'est pas un général taré qui décide d'envoyer la bombe nucléaire sur l'URSS, mais c'est un dysfonctionnement technique qui fait que... les avions reçoivent le mauvais signal et ils vont attaquer l'URSS, voilà, avec des armes nucléaires. Maintenant, toujours est-il que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. On a ces réunions de crise de « faut empêcher la catastrophe » parce qu'il y a quand même nos avions chargés d'armes nucléaires qui s'approchent de Moscou, en fait. Donc ça va être un peu chaud, voilà, peu importe pourquoi ils sont là, on s'en fout. Maintenant, il faut éviter la catastrophe. Donc ça, voilà, il y a notamment les réactions dans les avions quand ils reçoivent les ordres, c'est un peu la même incrédulité, genre en mode « Attends, tu peux répéter ce que tu viens de lire là ? Mais non, c'est pas possible, ça peut pas être ce plan-là, c'est, voilà, bon bah ok, on va attaquer Moscou, on demande de confirmation, on va confirmer, ok, bah on y va. » Enfin bref, Il y a tout ce genre de ressemblance, mais ce qui est normal, enfin je sais pas si, bon c'est un peu compliqué de s'imaginer d'être pilote dans un bombardier et de recevoir un ordre de bombarder Moscou, enfin de bombarder nucléairement Moscou. Déjà bombarder c'est chaud, mais alors avec l'arme nucléaire voilà, bon ça peut se comprendre qu'ils réagissent comme ça, enfin voilà. Moi je pense qu'il n'y a pas eu d'intention de plagiat à mon avis, je pense que le procès a arrangé bien Kubrick très clairement, mais pour moi il n'y a pas eu d'intention de plagiat. Surtout que c'est pas du tout le même film, c'est pas orienté pareil. Il y a des discussions, il y a une vraie réflexion sur l'arme nucléaire en fait. Dans, je dis pas que c'est pas le cas dans Docteur Follamour, mais Docteur Follamour il est plus centré sur comment dire, sur comme je l'ai dit sur les gens en fait, pas tellement sur l'arme en elle-même mais sur les gens. Alors que Point Limite c'est quand même pas mal centré sur l'arme nucléaire. Il y a notamment dans les scènes du début, avant que le problème technique se produise, il y a une réflexion sur l'arme nucléaire et qu'est-ce qu'elle a changé en termes de guerre. Certains qui disent, mais moi je pense que ça a totalement changé la guerre, qu'il ne peut plus y avoir de gagnants et de perdants. Et d'autres qui disent, bah si, dans tous les cas, il y aura un gagnant, un perdant, etc. Pour moi, dans tous les cas, quand il y a une guerre, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. L'arme nucléaire n'a rien changé à ça. Mais bon, après, chacun sa vision sur la guerre. Moi, c'est pas quelque chose que je soutiens. Voilà. Mais. Chacun ses délires, écoutez, bref. Tout ça pour dire que... Donc oui, il y a cette discussion-là sur la guerre. Il y a beaucoup de critiques de certains personnages du film qui sont accusés de jouer à la roulette russe un peu avec la mort au niveau mondial. Il y a un professeur qui théorise cette nouvelle forme de guerre et qui dit « Mais franchement, ça nous compterait 60 millions de personnes, mais l'URSS ont la règle de la carte une bonne fois pour toutes et on s'en tape. » Enfin voilà, il y a ce genre de critique là, ce genre de les critiques de cette mentalité là, de franchement on a rien à foutre, on va plus chercher à limiter la guerre, c'est-à-dire que s'il y a personne ou presque pour voilà combattre, enfin pour combattre en face, on limite la guerre, voilà, plus que essayer d'y mettre fin avec des manières diplomatiques. Il y a des trucs qui disent aussi oui il faudrait qu'on passe un pacte pour qu'on utilise l'arme nucléaire que contre des installations militaires ou je sais pas quoi etc, pas sur des populations. Il y a vraiment ce truc de cette critique de vous cherchez à limiter la guerre alors qu'il faudrait l'arrêter, et qui est plutôt bien amené hein, avec certains personnages qui sont assez insupportables, notamment un général où ils sont vraiment dans la mentalité typique de l'américain nationaliste avec le sentiment anti-soviétique, et ça aussi c'est pas mal critiqué, il y a une opposition de manière générale je trouve entre les généraux et les diplomates et les hommes politiques, où les militaires ont plus l'envie d'aller faire la guerre, tandis que les diplomates, on voit le président qui va essayer de négocier, on voit aussi des diplomates russes qui essayent de négocier, enfin voilà, il y a ces scènes de tension assez importantes où c'est vraiment littéralement juste le président des États-Unis qui négocie avec son homologue russe, mais dans le contexte où il y a des bombes qui se rapprochent de Moscou, ça crée une espèce de tension. Et Sidney Lumet, il sait faire ça. Sidney Lumet, c'est un mec avec qui sait manier le dialogue avec une grande maîtrise dans ça. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille évidemment l'immense 12 hommes en colère, de Sidney Lumet, c'est un chef-d'œuvre en fait, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, on retrouve Henry Fonda qui joue le président dans Point Limite, qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le juré numéro 8, celui qui fout la merde dans la délibération, celui sans qui il n'y aurait pas de film. Clairement, s'il avait dit coupable, le film n'existera pas. Bref. Mais oui, effectivement, et je parlais de collaboration, de certaines tensions qu'elle pouvait dégager, mais au-delà de tensions qu'elle peut dégager, c'est surtout qu'on nous montre une collaboration, on nous montre que oui, c'est possible, attention, on peut collaborer avec les soviétiques pour éviter le pire. Donc, voilà. Il faudrait qu'on le fasse quand même, ça pourrait être pas mal. Bref. Et à un moment, il y a vraiment, justement, ce moment où il y a vraiment une collaboration avec les soviétiques, mais vraiment qui est demandée explicitement par le président. En termes de même, les généraux doivent communiquer, c'était quoi la position de vos avions, etc., machin et tout. Enfin, et en fait, à ce moment-là, on observe un grand truc de... En fait, les généraux sont pas d'accord. Ils veulent pas collaborer avec les soviétiques. Ils sont juste... Enfin, en vrai, il y en a un qui refuse carrément, l'autre qui hésite énormément. Enfin, c'est vraiment. Y a, pour moi, il y a cette critique, notamment de la guerre froide, il y a cette critique de l'endoctrinement, pardon, et de la paranoïa que ça a suscité. Le truc de. Enfin, voilà, ce cliché sur les soviétiques, etc. Pour moi, il y a aussi une critique dans ça, une critique de cette guerre, tout simplement, qui est, voilà, qui est jugée comme assez stupide. Et, enfin, voilà. Et dans le fond, on voit que les deux parties peuvent très bien s'entendre et coopérer en situation d'urgence, donc ils pourraient très bien s'entendre et coopérer tout court. Enfin, voilà. Si cette volonté, pardon, d'aller négocier vers l'autre, d'engager le dialogue, on peut le faire pas seulement en période de crise, on pourrait le faire tout le temps. Et je pense que c'est aussi un peu ce que Lumet a voulu dire. Maintenant, c'est vrai que, bon, à l'image de Dr. Follamour, il y a quand même une critique, pas forcément des gens derrière, du coup, parce que les gens derrière, bah, pour le coup, enfin, les décisions qu'ils prennent, c'est souvent les bonnes, en fait, pour gérer le conflit. Mais là, c'est vraiment une peur de l'arme en elle-même. C'est une peur de quand même l'institution, parce que ça part d'un problème technique, mais c'est quand même une peur de l'arme en elle-même et de ce qu'elle pourrait causer. Et d'ailleurs, il y a la fin de ce film que je trouve mais absolument folle, en fait. Enfin, vraiment, faire cette fin en plein contexte de guerre froide, je trouve ça fou, je trouve ça vraiment très osé, parce qu'il aurait pu se faire censurer, mais très facilement. C'est, enfin, voilà, sans spoil, c'est une fin qui est assez marquante. Comme je l'ai dit, tous les films font exploser la bombe, mais pas d'une manière, une manière similaire. Et je dois avouer que, point limite, c'est peut-être, même si, bon, dans le documentaire d'après, c'est encore spécial, enfin, dans le documentaire, c'est pas un documentaire, mais bref, dans le film d'après, c'est encore plus spécial, mais c'est peut-être, je pense, mon utilisation préférée. Je pense que mon film préféré parmi les trois qui sont incroyables et que je vous conseille tous, je pense que ça reste quand même Dr. Follamour, malgré ce qu'a fait Kubrick. Mais je pense que ce qui est fait de la bombe nucléaire, pour moi, je pense qu'il y a un avantage à point limite. Je peux pas encore une fois le dire parce que ça spoilerait très clairement, mais vraiment, je trouve ça d'une intelligence et d'un culot, mais enfin, c'est pas un culot en mode mais insultant, mais c'est d'un courage, en fait. Enfin, c'est plus ça, un courage, hein. Voilà, je trouve que ça force l'admiration, en fait, comme fin, et que, en fait, ça transmet bien le message du film, c'est que, bah, vraiment, si jamais il se passe une merde avec l'arme nucléaire, on est tous dans la merde, voilà, on est tous dans la merde, et évidemment qu'il faut rajouter des trucs dans la table de négociation, mais on est tous dans la merde. Et moi, je pense que, à titre personnel, hein, que le monde se porterait mieux sans les armes nucléaires, mais bon, on peut pas faire... Je voyais des candidats avec son présidentiel en France qui disaient qu'il faudrait supprimer l'arme nucléaire. Oui et non. Oui, dans l'idéal, oui, il faudrait, mais non, parce que si les autres pays ne le font pas, ça ne sert à rien. Voilà, et les autres pays ne le font pas. Donc ça ne sert à rien. Bref, tout ça pour dire qu'on est sur un film qui, dans sa construction, peut avoir l'air similaire à Dr. Follamour, même si c'est pas de la comédie, mais dans l'enchaînement de certains événements, etc., c'est quand même un pitch qui se rapproche. Mais qui, au final, arrive à se créer une putain d'identité, avec quand même de grands acteurs dedans, avec un grand monsieur du cinéma derrière la caméra. Et pourtant, c'est un film qui a été oublié, c'est un film qui a été injustement oublié à cause de ce procès, à cause de Kubrick, hein, très clairement, qui a été porté plainte pour plagiat. Voilà, je trouve ce film injustement oublié. Je trouve que il faut pas cracher sur Dr. Follamour pour autant, parce que ça reste un très bon film, mais que point limite devrait très clairement être réhabilité, parce que enfin ça reste un grand film. Ça aborde le prisme de l'erreur et de l'envoi de l'arme nucléaire par rapport, enfin, d'un autre point de vue. C'est traité différemment, on passe de la comédie au drame où il y a énormément de tension, où ça fait quand même vraiment, on est tendu, on a envie de connaître la fin, etc., où c'est beaucoup moins léger. C'est vrai que je disais que ce qui est intelligent avec Kubrick, c'est qu'à travers la comédie, on prenait pas forcément le sujet au sérieux, et qu'il y avait matière à critiquer, et que les satires se faisaient énormément par l'humour. Mais n'empêche que, et c'est aussi ce qu'a voulu faire le film dont je vais parler après, de montrer ce truc d'une manière, je dirais pas réaliste, mais d'une manière dans laquelle c'est presque, il y a une tension presque palpable, on se dit, bah putain, ça va arriver, même si c'est que dans le film, on se dit putain, ça va arriver, c'est quand même intelligent parce que ça fait ressentir la peur. Ça fait ressentir la peur de cette arme nucléaire qui nous pèse tous au-dessus de la tête. Il faut le rappeler, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce sujet, c'est que la guerre en Ukraine nous l'a rappelé. Ça nous pèse tous au-dessus du crâne, vraiment. Et moi, j'en fais des cauchemars, j'en dors pas bien. Mais c'est comme ça, c'est le monde actuel. Mais bref, dans tous les cas, ça arrive quand même à montrer déjà une certaine peur qu'avait les sociétés à l'époque, parce que la crise des missiles de Cuba, c'était un vrai traumatisme. Je comprends ce qu'ils pouvaient ressentir, très clairement, vu que, comme je l'ai dit, quand je dis j'en fais des cauchemars, j'en abuse pas, j'en fais vraiment des cauchemars. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs rêves où on se faisait bombarder à l'arme nucléaire. Mais ça c'est un autre sujet, mais bref, je comprends du coup le traumatisme qu'ils ont pu avoir, et ça a été un vrai traumatisme, très clairement. Donc je suis désolé, mais Kubrick pour le coup a été un con, parce que les deux films pour moi sont complémentaires et pouvaient aller ensemble. Et certes, ça a fait plus de succès et plus de bruit à ton film qui s'est inscrit plus facilement dans cette démarche de culte. Mais dans tous les cas, les deux ne sont pas incompatibles, en fait. Et je pense que même faire un double programme, avec les deux, ce serait super intéressant, justement, pour voir comment les sociétés et les réalisateurs dénonçaient différemment ce problème-là. Et voilà, je trouve ça vraiment juste totalement con, ce qui s'est passé. Et si jamais vous avez l'occasion de voir Point Limite, voyez Point Limite, parce que c'est franchement super bien. On va maintenant passer au troisième et dernier film de cette sélection, tout simplement. Un film qui aborde la menace nucléaire, qui est très court, celui-là, pour le coup, il fait moins d'une heure, et qui aborde moins d'une heure, par contre, en ressenti et en comment ça nous draine. Enfin bref, j'en parlerai, c'est super éprouvant, bref. C'est un film qui choisit le prisme du faux documentaire pour dénoncer cette menace. C'est d'ailleurs le seul faux documentaire qui a réussi à obtenir l'Oscar du meilleur documentaire. La règle a été changée après ce film-là, justement, pour que ce soit des vrais documentaires qui le gagnent. On va maintenant parler de The War Game, ou La Bombe en français, de Peter Watkins.
No, there won't be a war. I'm quite convinced of that.
During a recent meeting of the Ecumenical Council at the Vatican, a bishop told the press that he was sure our nuclear weapons will be used with wisdom.
Alors The War Game, comme je l'ai dit, c'est un faux documentaire, c'est-à-dire que c'est un film qui est présenté, monté, qui a les codes du documentaire, mais qui n'en est pas un, enfin, voilà. Et en gros, ça part du principe de, je sais pas quoi, je sais plus pourquoi, les installations nucléaires de l'URSS sont fragilisées, et du coup ils doivent tirer tous leurs missiles d'un coup. Et pour choisir, pour tirer, ils choisissent l'Angleterre. Voilà, le Royaume-Uni, tout le Royaume-Uni se mange les missiles soviétiques dans la gueule. Je vous avoue que c'est quand même un documentaire qui, malgré le fait que voilà, ça reste un faux documentaire, il arrive à être hyper réaliste. Mais quand je vous dis hyper réaliste, c'est vraiment très impressionnant à quel point il arrive à être réaliste. Et c'est ça qui m'a foutu mal. Je vous avoue que c'est le premier film que j'ai vu, enfin je crois, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier en parallèle, de la sélection, et je l'ai vu chez moi, voilà, tout simplement. Et je suis allé me coucher, mais en étant, mais c'était à la fois, il y avait un mal-être et un pessimisme profond, en fait. Vraiment, c'est comme si j'avais perdu foi en l'humanité. Sincèrement, ça m'a... C'est très impactant. C'est très très impactant. C'est hyper costaud. Et oui, je viens de vérifier, c'est le premier film que j'ai vu des trois. C'est tellement puissant, c'est tellement... Voilà. Vous savez, si vous écoutez ce podcast, que quand j'ai du mal à trouver mes mots comme ça, je fais pas semblant. Si j'ai du mal à trouver mes mots comme ça, c'est que vraiment le film est quelque chose. Voilà. Bref, en gros, le film, c'est, au début, il explique que le Royaume-Uni serait une cible un peu efficace parce que les bases aériennes et les villes sont un peu concentrées au même endroit, etc. Et que, bref, bon, c'est un des éléments de contexte. Et en fait, à l'époque, en tout cas, ce que nous dit le film, c'est que globalement, ce sera la merde. Hein. Bon, des gens sans doute, mais même au-delà de l'arme nucléaire, qui, a priori, les armes, les bombes du film ne sont pas forcément hyper puissantes comme le sont celles d'aujourd'hui. Mais bref, en gros, hormis du fait que ça tuerait beaucoup de personnes sur le coup, on dit que ce serait énormément... Enfin, ce serait genre impossible à gérer. Enfin, hyper compliqué, il y aurait eu des tickets de rationnement, il y aurait des personnes qui devraient évacuer des zones, donc ils se retrouveraient énormément parce que ça deviendrait des réfugiés, donc il faudrait les accueillir, donc ils se retrouveraient énormément par maison. Et en gros, on nous dit qu'à l'époque, la population n'avait pas encore beaucoup été formée au nucléaire, qui ne connaissait pas du tout ça, donc qui ne pourrait pas bien se préparer, et qu'il y a eu aussi une augmentation des inégalités, parce que vous avez par exemple des sacs de sable qui sont mis aux fenêtres pour pas que la radiation puisse rentrer. Et ça, si vous voulez, si vous êtes pauvre, vous n'avez pas forcément le luxe de bien vous protéger. Et il y a énormément d'inégalités. On voit des gens qui, dans leur maison, ont plein de sacs de sable à côté de gens qui n'en ont pas du tout. Et il y a même un mec qui a un abri, genre, il peut s'abriter dans sa maison. Son abri dans sa maison, il est tout prêt, il est propre, il est bien comme il faut. Et il a un abri dans son jardin qui est aussi, genre, prêt à être utilisé. Et il sort un fusil, je crois, il fait, mais le premier qui essaye de se mettre dans mon abri, je le défonce. Alors qu'il peut totalement s'abriter dans sa maison et aider d'autres gens à survivre, mais il veut pas. Enfin voilà, bref. Ça aussi, ce principe-là de renforcer les inégalités, ce principe que je trouve fondamentalement intéressant, parce que bien sûr, quand on pense arme nucléaire, on pense militaire, on pense dégâts matériels, on pense bilan des morts immédiatement, etc. Mais... on pense pas vraiment au social, aux inégalités justement que ça peut créer. Et voilà, enfin. Et on a beaucoup de mesures en fait qui sont en train d'arriver. Enfin, beaucoup de pas de mesures, mais de conséquences qui sont en train d'arriver, notamment avec la guerre en Ukraine. Il y a l'augmentation des prix, il y a des mobilisations et des émeutes. Enfin voilà, dans certains endroits. C'est quelque chose qui. Est quand même mine de rien d'actualité, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler et d'en faire une question géopolitique, parce que c'est quand même des films qui datent de 64 et de 65 mais qui restent pertinents aujourd'hui. Voilà, si je me souviens bien, je viens de relire mes notes que j'ai pris en regardant le film. Quand je dis qu'il y avait un problème avec les bases soviétiques, c'est qu'apparemment c'est l'OTAN qui sont les premiers à déclencher, donc il y a quand même une critique de aussi cette volonté de faire la guerre, quoi. Voilà. C'est quand même le fait que dans le film, c'est un film britannique qui a été produit par la BBC, c'est pas rien. Il a pas été diffusé à la télé, je crois. Ce qui peut être compréhensible, étant donné le film que ça a donné. Il a eu une sortie cinéma, il me semble, mais il a pas été diffusé à la télé. Mais il a quand même été produit par la BBC, donc c'est pas rien, quoi. C'est une des plus grosses chaînes anglaises et tout. Et c'est vrai que déjà rien que de dire c'est de la faute de l'OTAN si l'URSS est obligé de répondre, etc. C'est quand même pas rien. Et en fait, à la fois, dans tous les films, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc. Pour moi, c'est pas des films qui accablent le camp de l'Ouest, c'est pas des films qui accablent l'OTAN, c'est des films qui accablent la guerre. Pour moi, ça pourrait être la même chose du côté soviétique. C'est juste que comme eux, ils sont du côté occidental et qu'ils veulent frapper fort en critiquant, ils vont aller critiquer le côté occidental. Mais pour moi, c'est pas vraiment une critique du camp occidental en tant que tel. Enfin, bien sûr, dans Point Limite, il y a la critique du nationalisme, de la haine antisoviétique, etc. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, on n'est pas dans la volonté vraiment fondamentale de vraiment faire une critique anti-Occident. Pour moi, c'est vraiment une critique de la guerre en termes généraux. Et je pense que c'est ce qui est le plus important à retenir de ces films. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que découpé en plusieurs parties. On a le contexte, on a l'annonce des tirs de missiles, on a également la préparation, donc là on entend les sirènes d'alarme, les manuels de survie, etc., machin, ce genre de trucs. On a l'impact et on a les conséquences. Et c'est les conséquences qui, à la fois, sont le plus intéressant et à la fois sont le plus badant et qui m'ont mis mais terriblement mal. Les conséquences sont horribles. Déjà, une détresse au niveau des médecins qui sont pas assez nombreux pour gérer tous les blessés. Il y a des policiers qui sont obligés de tuer des gens pour les soulager. Et quand je vous dis ça, c'est pas vraiment des trucs sous-entendus. C'est des trucs qui sont mis en scène, qu'on voit bien évidemment, qui sont pas véridiques. Les policiers n'ont pas vraiment tué des gens, etc. C'est pas un vrai documentaire. Mais en fait, c'est mis en scène tel quel, et du coup, on a cette impression de réalisme. On a l'impression que c'est vraiment genre dans un univers parallèle, sur une autre terre, où on sait pas où, où c'est vraiment arrivé. Et c'est terrifiant, du coup. C'est terrifiant. Je vais essayer de vous faire une petite synthèse de mes notes. Ça toucherait au minimum un tiers de la population, mais bon, c'est plus la moitié, voilà. En tout cas, pour le Royaume-Uni, dans ce documentaire. C'est faux documentaire, je sais, mais je vais dire documentaire, c'est plus simple. Bref, je vais bien par dire mockumentary, voilà, vu que c'est le terme en anglais. En fait, on a ce truc de... il y a quand même des gens qui meurent dedans, soit, mais en fait, les gens qui survivent, c'est pas vraiment une chance, en fait, de survivre, parce que c'est genre un... Ils sont... On les voit en état de choc, on les voit, c'est un traumatisme, mais énorme. Et puis même ceux qui survivent, ils peuvent avoir des maladies sur le long terme, parce que il y a des... Bon, bah, à cause des radiations, il y a aussi ce moment où on voit un gosse qui se brûle la rétine à cause de l'explosion qui a eu lieu à des... Je sais pas combien de kilomètres de sa maison, mais quand même, l'explosion lui a brûlé la rétine, donc il devient totalement aveugle. Et c'est quand même tout le monde en état de choc de ce qui vient de se passer parce que c'est d'une violence inouïe. Et on a, moi, cette scène mais qui m'a marqué, mais qui vraiment, mais quand je l'ai vue, mais j'étais à bout, mais vraiment, c'était déjà épuisant de regarder ce truc, mais j'étais à bout quand je l'ai vue. C'est quand ils font des fausses interviews d'enfants et qu'ils leur demandent « Et vous, qu'est-ce que vous voulez être plus tard ?» et qu'ils répondent un par un « Rien, 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 je ne veux rien être. » Et vraiment, mais ce truc mais m'a achevé, mais a achevé de me miner le moral, de me faire perdre foi en l'humanité, de ne plus avoir d'espoir, de m'ancrer dans un pessimisme qui est, mine de rien, lui aussi ancré dans le film reste quand même très pessimiste dans sa dénonciation. Ça présente quand même des événements catastrophiques. Pour moi, c'est un film très pessimiste. Et je pense que c'est le but aussi. Mais bref, voilà. Mais c'est... The War Game, c'est quelque chose. The War Game, c'est costaud. On a beau se dire... moi, c'est ce que je me suis dit. Bon, ça fait que 50 minutes, je vais le regarder en premier. Enfin, voilà, ça coûte rien. Mais The War Game, c'est très, très costaud. Mais en fait, Je sais pas quoi dire. C'est un film qui m'a tellement pris au trip, qui m'a tellement... Mais comment dire, c'est comme si j'avais des angoisses, parce que j'ai ces angoisses d'attaquer l'arme nucléaire, etc. Je les ai. Et c'est comme s'il y avait un film qui m'avait dit « Bah en fait, tiens, ça s'est passé dans un pays qui n'est peut-être pas de ta terre, qui est dans un autre endroit, mais ça s'est vraiment déroulé, et regarde ce qui s'est passé. » Et à ce moment-là, mais je me suis couché, mais... Voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots, en fait. En fait, si vous voulez, pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que ce film, c'est celui dans les trois qui arrive le mieux à accomplir son objectif, c'est-à-dire dénoncer l'arme nucléaire. C'est, en fait, ça, là où Kubrick et Lumette s'ancrent respectivement dans la comédie et le drame. Peter Watkins, pour moi, ne choisit pas le faux documentaire. Peter Watkins, pour moi, choisit l'horreur. Pour moi, c'est un véritable film d'horreur, en fait, The War Game. Parce que justement, en le traitant par ce prisme et ce registre réaliste, en fait, les événements du film qui se passent sont tellement marquante et éprouvante que ça en devient un véritable film d'horreur. Premier degré. Et sincèrement, si vous êtes comme moi et que vous avez peur de ça, ça va forcément vous marquer. Ça reste un très bon film, ça reste un film super intelligent, mais ça va forcément vous marquer. Voilà. Ça dure 48 minutes, mais pourtant c'est très long. C'est très long et plus on avance, plus on a l'impression qu'on se fait pomper notre espoir, notre joie de vivre. Et plus on devient pessimiste. Et pour moi, pour vraiment bien dénoncer cette arme nucléaire, il fallait créer de l'effet. Et le film qui arrive à créer le plus d'effet, c'est The War Game. Et de loin. Et de très très loin. Je n'ose même pas imaginer en fait ce qu'en ont pensé les gens quand ils l'ont vu à l'époque. Je suppose que ça devait être encore plus la panique. voilà, même après la crise de Cuba, de voir ça, à mon avis, ça n'a pas dû les aider. Voilà. Mais je pense que c'est un film nécessaire. Je pense que c'est un film qui est aussi nécessaire aujourd'hui, avec les situations actuelles. Qui va peut-être en laisser sur le carreau, j'en ai conscience, puisque c'est vrai que c'est pas très jojo, mais qui reste un très bel objet de cinéma, qui sait parfaitement comment atteindre son but. Enfin, il y a beaucoup de qualités, énormément, même plus que de défauts. Le seul défaut, je dirais, c'est justement ce truc de film un peu trop marquant, mais voilà, c'est un film qui fait très réaliste, qui, enfin voilà, on a vraiment l'impression qu'il est vrai, que c'est vraiment un documentaire. D'ailleurs, les images d'explosion de bombes s'inspirent de vrais bombardements atomiques. Mais bref, tout ça pour dire que The War Game, c'est sûrement le plus costaud des trois films, mais pour moi, le film qui incarne le mieux et qui dénonce le mieux cette menace permanente qu'on a au-dessus de nos têtes, qui est la menace nucléaire. Et bien évidemment, comme les deux autres films, je ne peux que vous le recommander en vous disant toutefois de faire attention, parce que voilà, pour moi c'est pas... J'ai eu beaucoup de mal à vraiment en voyant ce film, c'est assez éprouvant. Voilà, c'était tout pour moi. Bon, je vais quand même faire une petite conclusion. Donc, on peut voir que la crise des missiles a quand même impacté notamment le monde et les sociétés. Et de toute manière, Lara a toujours été le reflet des sociétés, donc le cinéma forcément allait s'en emparer. Et on a ces deux films des 64 avec Docteur Follamour et Point Limite, et après la BBC qui produit The War Game. Ce qui est bien en fait, c'est que même en très peu de temps pour dénoncer l'arme nucléaire, on a des films qui le font d'une manière qui est très différente les uns des autres et qui leur est propre à chacun. Kubrick qui va le faire dans la satire, ça lui permet d'avoir un certain décalage pour mieux critiquer et ridiculiser ses personnages afin de mieux faire passer sa critique. Mais on n'est pas sur une critique de l'arme nucléaire en tant que telle, on est plus sur une critique des technocrates et des gens derrière en fait qui seraient potentiellement pas capables de gérer une crise. Dans Point Limite, on est quand même un peu plus sur une peur de la bombe, même si il y a une critique quand même de la mentalité américaine. Voilà, cette volonté d'impérialisme, de ce sentiment aussi anti-soviétique, ça existe tout ça dans Point Limite, j'invente rien, mais c'est pas ce qui est minoritaire, enfin majoritaire. Je trouve qu'il y a quand même une vraie peur justement que ce genre de dysfonctionnement arrive et que il y a un jour vraiment une attaque à la bombe nucléaire. Et Point Limite, ce qui est intéressant, c'est qu'il insiste sur les négociations. Il insiste, c'est des scènes, enfin des fois c'est juste un plan fixe pendant je sais pas combien de temps, mais le talent d'acteur d'Henry Fonda et la mise en scène de Lumet fait que la tension arrive à être palpable et que, enfin voilà, Lumet la tension connaît. Enfin, si vous avez vu 12 hommes en colère, vous savez que c'est, voilà, que la tension des gens qui s'engueulent dans une pièce, encore ils s'engueulent pas forcément, mais bref, qui se parlent dans une pièce, ils savent gérer. Et voilà, je trouve ça absolument fabuleux et très intelligent comme film. Très intelligent dans son message pacifiste de regardez, franchement, s'il y avait une crise, vous coopériez bien. Alors pourquoi vous ne le faites pas hors crise? Voilà, tout simplement, pourquoi vous n'arrêtez pas cette guerre? Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai interprété. Après, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire, mais bref, je trouve que ça marche aussi comme ça. Et on a bien évidemment The War Game qui là est centré pleinement sur la menace de la bombe, et c'est pour ça que c'est plus marquant, parce qu'il n'a pas volonté à critiquer forcément la politique des États. À part quand on dit que c'est l'OTAN qui est engagé, à part quand on dit que la population n'est pas assez formée, il n'y a pas vraiment de volonté de critiquer les États. Et pour le coup, moi ce qui m'a marqué avec The War Game, c'est qu'il s'intéresse aussi et beaucoup aux conséquences de la guerre, de la guerre, n'importe quoi, de bombardement nucléaire, de qu'est-ce que seraient les conséquences en cas de bombardement nucléaire. Et je trouve que c'est le plus marquant parce que ça offre une vision mais noire du monde, une vision remplie de pessimisme. Moi, je vais être hanté jusqu'à la fin de mes jours par cette image des gosses qui font mais rien. Qu'est-ce que tu veux devenir? Nothing. 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 Enfin, voilà. Je vais être hanté par cette image, vraiment, qui est juste... C'est à la fois hyper intelligent et à la fois tellement cruel pour le spectateur en raison du traumatisme que ça inflige. Mais bon, après, voilà, on sait un peu à quoi s'attendre aussi. Moi, je vous ai prévenu longuement. Effectivement, c'est pas facile. The War Games, c'est pas facile. Mais donc voilà, je trouve que c'est super intéressant de voir comment l'art reflète la société, de voir comment les réalisateurs s'en sont emparés de la problématique à leur manière en... Comment dire ? Bah, en choisissant chacun un genre qui leur est propre, qu'ils aiment bien, dont ils arrivent à détourner les codes. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Et même si j'avoue que c'est un peu éprouvant, que ça me pèse beaucoup sur le moral, je suis pas forcément mécontent d'avoir choisi ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, un peu trop. Je vais essayer de me limiter parce que j'ai que 5 minutes et que là, à l'heure actuelle, ça fait 56 minutes que j'enregistre. Mais bon, voilà. Je suis juste 50 minutes au-dessus du temps réglementaire, mais c'est pas grave. Bref, non oui, mais je trouve que c'est un sujet quand même très intéressant, qui reste très pertinent avec l'actualité, et qui aussi démontre bien la puissance du cinéma et de comment on peut faire les choses. Au cinéma, il n'y a pas une manière de faire les choses, n'est-ce pas Kubrick ? Voilà, n'attaque pas les gens pour plagiat. Et je pense sincèrement que on a trois grands films qui méritent d'être inscrits au panthéon du cinéma, et je vous encourage à les regarder, même si forcément, ce ne sera pas une partie de plaisir pour certains. Voilà, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode que je vous ai promis depuis pas mal de temps. J'ai enfin trouvé le temps de le faire, voilà, mais bon, il est un peu long, donc ça peut rattraper le temps d'attente, etc. Bref, écoutez, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser des notes aussi pour ce podcast sur Apple et Spotify, je crois que c'est les deux seuls trucs qui ont un système de notes, ça me ferait très plaisir. De m'envoyer même des messages sur Insta pour me dire ce que vous pensez du podcast, ça me ferait énormément plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.